10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'islam au présent. Alors, c'est une heure pour parler d'islam en direct tous les samedis. C'est le rendez-vous que vous donne l'imam Abdelali Mamoun. Comment ça va, imam Abdelali?
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Philippe. Alhamdulillah, ça va. Non, madame qui va pas aujourd'hui. Elle est un peu malade.
C'est vrai.
On va faire des deux à vous.
Allah
yashafiha. Elle est marida.
Bien.
Elle est malade, miskina. Allah yashafiha.
Bon, voilà, ça passe à travers les le transistor et puis tous ceux qui nous écoutent font des doigts pour Fouzia.
Bah, elle devait donner cours aujourd'hui et malheureusement tous ses élèves ont été invités à rester à la maison. C'est vrai qu'il fait froid, il fait froid aujourd'hui là, franchement.
Bah, c'est justement le jour où ils vont couper l'électricité.
Ah bah écoute,
je sais pas, ils étaient en train de nous préparer hier.
Franchement,
il faut arrêter vos douches le soir. Hein.
Moi, je trouve ça dingue qu'aujourd'hui il y ait des infrastructures qui consomment de l'énergie mais incroyable. Par exemple, les piscines, les grands centres commerciaux et tout ça. Ceux-là, on les laisse continuer leur truc. Et puis, c'est le petit ménage modeste qui a besoin essentiellement de son électricité pour pouvoir subvenir à ses besoins quotidiens. C'est lui
comme toujours,
faire subir.
Emmerder.
Voilà, je voulais être poli, je voulais rester poli.
Ouais, mais je voyais que vous étiez en train de le dire,
je préfère le dire,
comme ça c'est moi qui...
On a le droit de penser ce qu'on veut en islam,
ouais.
Tant que tu dis rien, que tu fais rien. C'est seulement les dires et les faits qui sont jugés, contrairement au christianisme.
Les actes ne valent que par leurs intentions.
Non, ça c'est autre chose. Alors c'est ça, c'est quand tu fais un acte, ouais, que tu dois avoir une noble intention, justement on va en parler aujourd'hui, ouais, puisque la dette fait partie des actes qui sont associés
de la dette, ouais,
à l'intention. Mais là, je parle, voilà, je ne fais rien, mais je pense. Est-ce que je fais l'objet de sanctions auprès de Dieu concernant des mauvaises pensées? La réponse est non. Contrairement au christianisme.
Voilà, c'est plutôt une mauvaise parole.
Comment?
C'est un mot, c'est un gros mot. Vous voyez, c'est pas. C'est...
Par exemple, n'importe quoi. Bon, avoir une mauvaise pensée.
Dire que quelqu'un vous embête, c'est pas une mauvaise pensée.
Non, c'est pas une mauvaise pensée. Ça, je dis, chacun sait ce que c'est qu'une mauvaise pensée. Mais en tout cas, est-ce qu'on est sanctionné pour une mauvaise pensée? La réponse est non. Tant qu'on ne la prononce pas et qu'on n'agit pas en conformité avec cette pensée, eh bien, on n'est pas sanctionné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il ne nous compte pas une CIA, c'est-à-dire un péché. Voire même qu'il nous le compte comme une bonne action si on s'abstient, s'il y a une résistance à commettre. Par exemple, toi, tu as une pensée. Le prophète dit dans un hadith, « Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, kutibat lahu hasana. » Celui qui a une mauvaise pensée, qui a une intention de faire quelque chose de mal, et qui s'abstient, qui se retient, donc il y a une résistance au péché, eh bien Dieu te comptera pour cela un bon point, c'est-à-dire une hasana. Tu sais, je te rappelle des bons points, Philippe.
Je sais. j'allais dire un mot, je me suis arrêté, vous voyez, que là...
T'as gagné une hasana.
Voilà, vous voyez, voilà.
Mashallah, allez.
On connaît la sourate, parce qu'elle est très connue, hein, la sourate la plus longue du Coran, mais quel est le verset le plus long du Coran?
Eh ben, c'est dans cette sourate qui est la plus longue, sourate al-Baqarah, la fameuse sourate 2, sourate al-Baqarah, et vous avez le verset 282, qui est justement le verset qui parle de la dette.
Et c'est le plus long du Coran?
C'est le plus long, il fait une page entière, tout simplement, voilà, il fait une page. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il est plus long que plusieurs sourates. C'est-à-dire qu'il y a des sourates dans le Coran qui font trois, une ligne et demie, comme sourate al-Kawthar ou sourate al-Ikhlas, la sourate la sincérité, ou même les Mu'awizatayn. Ce verset à lui tout seul, eh bien, il est plus grand que toutes ces sourates cumulées. Il fait une page entière. Alors, je vais quand même vous la réciter en français. D'abord, en arabe, c'est Yayuladina Manu Ida Tadayentum Bidainin Ila Ejale Musamman Faktubu. Et là, c'est le début du verset, mais je vais le lire en français. « Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit. » C'est-à-dire, écrivez-la, ce qu'on appelle une reconnaissance de dette. « Et qu'un scribe l'écrive. » Un scribe, c'est-à-dire quelqu'un qui est expert en la matière et qui sait ce qui doit être écrit pour s'assurer de la sécurité de ce document et de la garantie de ce document. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce que Dieu lui a enseigné. Qu'il écrive donc. Donc il y a bien un enseignement des scribes, c'est-à-dire des gens qui vont rédiger la dette. qu'il craigne Dieu son Seigneur et se garde dans rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes. Et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'entre elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés, ne vous lassez pas d'écrire la dette, ne vous lassez pas. Donc là, c'est très important. Il y a une insistance sur le fait d'écrire la dette, ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande. C'est plus équitable auprès de Dieu et plus droit pour le témoignage et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais il s'agit d'une marchandise. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Dieu. Alors Dieu vous enseigne et Dieu est omniscient. Voilà ce que dit Dieu dans ce verset, le plus long de Sourate Al-Baqarah, qui est bien entendu le plus long verset qui nous parle de la dette. Et ce qui est drôle dans tout ça, Philippe, c'est que ce verset coranique a tout simplement été abrogé. Le statut a été abrogé, norme.
Il faut expliquer aux gens justement ce que c'est, ce que ça veut dire abrogé.
Alors là, abrogé. Alors ça veut dire que là, quand Dieu il dit que il faut écrire à chaque fois que vous contractez une dette, il faut l'écrire. C'est-à-dire qu'il faut il y a un document qu'on appelle une reconnaissance des dettes, et il dit qu'il n'y a pas de péché s'il s'agit de marchandises. De ne pas l'écrire, justement. Donc ça voudrait dire qu'au cas contraire, ça serait un péché de ne pas l'écrire quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de monnaie. Voilà. Donc à partir de là, on sait que le prophète, à la suite, a contracté des dettes en argent et ne l'a pas écrit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a désobéi aux injonctions divines, à cette injonction divine, notamment, qui est citée dans ce verset ? En n'écrivant pas ce que Dieu a exigé d'écrire, eh bien, comme le prophète est lui-même l'application de la législation divine, cela signifie tout simplement que ce verset-là, c'est-à-dire, est abrogé dans le sens qu'il n'est plus une obligation, mais une forte recommandation. C'est-à-dire qu'il change de statut normatif. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une obligation, ça devient une recommandation. C'est-à-dire que le fait d'écrire la dette n'est plus obligatoire, mais fortement recommandé. Et donc, celui qui ne le fait pas, eh bien, n'est pas en faute vis-à-vis de Dieu. Contrairement à ce que le verset évoque en la matière. On a la preuve de cela, puisque le prophète, même peu de temps avant de mourir, est monté sur le mimbar et a dit « Celui à qui je dois de l'argent, qu'il se manifeste. » Et des compagnons se sont endettés et n'ont pas écrit. Des gens sont même vus se plaindre et devant, entre guillemets, le tribunal des compagnons après la mort du prophète concernant des affaires de dette. Et bien entendu, le juge a appliqué la règle que celui qui prétend quelque chose, qu'il ramène la preuve, soit un document d'endettement, soit des témoins, comme le dit le verset du Coran, qu'il est là aussi recommandé d'utiliser des témoins qui signent dans la dette, qui signent dans la reconnaissance de dette, être témoin de l'endettement de l'emprunteur vis-à-vis de celui qui a prêté l'argent. Donc vous avez le prêteur et vous avez l'emprunteur. Donc, et plus les témoins. Donc celui qui témoigne est invité à écrire. Même s'il n'écrit pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de document, le prêteur est en mesure de porter plainte et d'utiliser ces témoins-là à charge contre l'emprunteur pour prouver que c'est celui-ci est bien endetté vis-à-vis du prêteur.
Alors quel est le statut normatif de la dette en islam, Imam Abdelali ?
Alors il est tout simplement autorisé, indifférent légal, c'est-à-dire qu'elle est ni recommandée ni déconseillée, elle est simplement...
On peut s'endetter.
On a le droit de s'endetter, mais il y a l'intention qui compte. Là justement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, on parlait d'intention. Quand tu t'endettes, tu as forcément une intention, puisqu'il s'agit d'un acte, et comme tu l'as dit tout à l'heure, les actes ne valent que par leur intention. Donc emprunter de l'argent, c'est un acte et il y a une intention. Si au fond de toi-même, ton intention c'est de rembourser parce que tu as prévu un budget ou une manne d'argent qui va arriver et tu te dis ou tu dis à la personne elle-même que je souhaite te rembourser à terme de la date fixée, que l'on va, que je vais te dire, par exemple, le mois prochain, ou dans un an, ou dans deux ans, ou bref, ce qui a été convenu entre le prêteur et, l'en, et l'emprunteur. Donc là, là-dessus, il n'y a pas de difficulté quand le gars, il a une noble intention. Par contre, celui qui a l'intention, tout simplement, de d'escroquer le prêteur, et tout simplement de nier ensuite qu'il a emprunté de l'argent, et donc de, d'abuser de la confiance du prêteur, eh bien, là, effectivement, il est dans le péché. Au moment même où est-ce qu'il va emprunter l'argent, il commet un péché, c'est-à-dire tout simplement l'escroquerie, qui est le fait de s'accaparer le bien des autres, d'autrui, en utilisant la ruse, la filouterie. Il s'agit là tout simplement d'une ruse pour prendre de l'argent à autrui sans avoir l'intention de le rembourser. Le prophète dit à ce sujet-là, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, « Man akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha adallahu anhu » Celui qui emprunte de l'argent avec l'intention de la rendre, Dieu fera le nécessaire pour qu'il lui soit restitué. Même s'il meurt et qu'il doit, il doit encore cette dette, Dieu, le jour de la résurrection, paiera, dédommagera le prêteur par sa grande générosité. C'est sa générosité qui viendra intervenir pour payer la dette de l'emprunteur, parce que Dieu savait qu'au fond de lui-même, il avait l'intention de rembourser. Mmh. C'est-à-dire que si le prêteur vient devant Dieu dire « Ya Rabbi, ô Seigneur, un tel ne m'a pas remboursé mon argent, je voudrais récupérer ses hassanettes. » C'est-à-dire, je voudrais être payé, non pas en argent, parce qu'on ne peut pas payer le jour de la résurrection en argent, mais on peut payer en donnant de ses bonnes actions, de ses hassanettes que l'on a fait dans ce bas monde. Eh bien, Dieu dira « Non, mon serviteur avait l'intention de te rembourser, c'est moi qui vais payer à sa place. Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui dira « Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux le paradis ?» Tu veux ceci, tu veux cela, et c'est Dieu qui rembourse à sa place. Addallahu anhu, comme le dit le prophète, alayhi salat. Wa man akhadaha yuridu itlafaha, atlafahu Allah. Celui qui la prend avec l'intention de la consommer, de manger la dette et ne jamais avoir l'intention de la rembourser, eh bien Dieu fera en sorte que cet argent-là, il n'y a pas la baraka, que tu la perdes, il va la perdre facilement et rapidement, et elle restera sur son dos une responsabilité devant Dieu qui ne lui pardonnera pas, que seulement si le prêteur lui pardonne. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, dans le Sahih Al-Bukhari.
Bien Malaki ne profite jamais. Alors, quels sont, pour celui qui prête de l'argent, Imam Abdali, les mérites de prêter de l'argent et de faire preuve d'indulgence quant aux créances de remboursement convenues?
Alors là, Dieu s'adresse au prêteur. Hein, le prêteur, c'est-à-dire ceux qui ont les capitaux, qui ont les moyens de prêter de l'argent et qui sont face à des personnes qui sont en difficulté. Ces personnes-là ne souhaitent pas demander l'aumône, c'est-à-dire qu'elles disent, elles se disent capables de gagner de l'argent, mais elles sont dans une période de crise, dans une période de difficulté. Hein, dans la vie, même d'un point de vue économique, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où est-ce que c'est difficile, de s'en sortir. À ce moment-là, Dieu demande à ces gens-là qui prêtent de l'argent de faire preuve de largesse, de souplesse, d'indulgence vis-à-vis des emprunteurs. Il dit dans le Coran, dans le verset 280 de la sourate Al-Baqara, toujours la sourate 2, « Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maysara wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun » Et celui qui est dans la gêne, accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, jusqu'à qu'il soit capable de rembourser sa dette, entre guillemets. Mais il est mieux pour vous de faire remise de cette dette par charité, si vous saviez. C'est-à-dire que même là, Dieu, il demande quoi? Il dit quoi? Ben, vous, les prêteurs, vous êtes dans l'aisance, vous êtes, faites une sadaqa. Vous voyez que le gars, il est en galère. Pourquoi vous l'accablez, vous le persécutez, vous l'envoyez des mises en demeure, des lettres, des huissiers, des ceci, des cela? Eh bien, il n'est pas convenable que de faire cela à une personne qui est dans l'adversité, qui est dans la contrainte, dans la difficulté, eh bien, de l'accabler encore plus en lui faisant subir du harcèlement quotidien. Hein, il y a un proverbe qui dit « Ad-dayn dhul al-layl, dhul al-nahar wa ham al-layl » que la dette, c'est le souci. On n'endort pas la nuit. C'est un souci qui engendre une insomnie la nuit et qui humilie la personne le jour. Elle humilie parce que le gars, il est constamment en train de lui courir derrière. Dès qu'il le voit de loin, il essaye de détourner le chemin, il essaie de l'éviter. Non pas parce que il essaye d'éviter de rembourser, mais il sait que le gars, il vient lui réclamer sa dette et qu'il n'est pas en mesure de lui mentir en lui disant « Ouais, t'inquiète, je vais te rembourser », alors qu'il sait qu'il peut pas lui rembourser pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et là, Dieu, pour cela, intervient et dit à cet homme, dit à ce prêteur, il dit dans le hadith rapporté encore une fois par Abu Huraira, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi ad-dunya naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Hein, celui qui soulage l'âme de son frère dans ce bas monde, Dieu soulagera son âme des péchés qu'il a commis et le soulagera et de ce fardeau de péché qu'il a accompli dans ce bas monde le jour de la résurrection. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et celui qui rend facile les choses à quelqu'un qui est en difficulté, Dieu lui facilitera la vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et celui qui fait preuve de dissimulation, c'est-à-dire qu'il cherche à cacher la faute et les erreurs de son frère, eh bien, Dieu, lui, cachera ses fautes le jour dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dieu est autant en aide vis-à-vis de son serviteur que celui-ci l'est vis-à-vis de son frère. Je répète, Dieu est autant en aide vis-à-vis de son serviteur autant que celui-ci l'est vis-à-vis de son frère. Donc, aidez, quand vous êtes en difficulté, n'hésitez pas même à aider les autres, et bien vous verrez que Dieu interviendra et vous facilitera. Et bien moi je l'ai testé à maintes reprises, ça marche. Quand vous êtes dans une impasse, ne dites pas moi je peux pas aider les autres parce que je suis en galère. Je vais pas faire de sadaqa parce que moi-même j'ai des dettes. Non, faites la sadaqa et faites l'intention que inchallah Dieu vous soulage et vous facilite le remboursement de votre dette.
Imam Abdelali Mamoun. Alors, si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali, je vous rappelle que le standard de l'islam au présent est à votre disposition et vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous pouvez intervenir quand vous voulez, hein, c'est votre émission au 01 53 48 3000 pour poser des questions à l'imam Abdelali Mamoun. Je vais faire de la pub à l'imam Abdelali, vous ne m'avez pas payé.
Oui.
Vous regardez le SMS que je vous ai envoyé.
Oui, ouais, j'ai vu ça. Tu voudrais t'endetter à ce qui paraît.
Oui, exactement.
Il croit que je suis Rockefeller, Rothschild.
Ouais, l'imam.
Non, mais c'est pas Rockefeller,
l'imam du
pas
Qatar.
Marqué à la Banque Populaire ici. Populaire Banque Chabi. Chez le Mghribi, ils appellent ça le Banque Chabi.
Eh non, vous avez dit que je peux m'endetter, donc voilà.
Ouais.
Je mets l'intention de vous le rendre.
Avec l'intention de me le rendre.
Oui, je mets l'intention. Voilà, imam Abdelali,
je suis mal barré.
Non, j'ai une amie qui est partie faire la Omra avec vous, qui a dit que c'était super bien.
De quoi? De faire la Omra avec moi?
Bah,
ah, je pensais de. Tu parlais d'endettement.
Mais non.
Parce que t'as changé de sujet, de passer de coq à l'âne.
Non, je disais, je vais.
Tu passais du coq à l'âne.
J'ai dit, je vais faire de la pub à l'imam.
Ah.
Sans rien vous demander, je ne demande pas d'argent.
Ah oui, donc c'est la pub pour la Omra.
Ouais,
oui,
ouais,
il y en a une le 20 décembre, là, je parie, Inch'Allah.
Elle a dit que vous étiez plus calme à la Mecque.
Ah, bah c'est ça.
Elle a dit, l'imam Abdelali, tu vas à la Mecque, tu ne le reconnais pas.
Mais il faut garder son sang-froid d'abord.
C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu ne le reconnais pas. Parce qu'il y a tellement de gens qui
te sollicitent. Il faut que tu te forges une grand esprit de, avoir les épaules très larges, en gros. Être consciencieux et à l'écoute de tous les pèlerins parce que il y a un engagement entre toi et eux.
Bon,
tu t'es engagé à prendre soin d'eux.
Elle a kiffé.
Je prends soin d'eux, je suis là. Aux petits soins, pour les ramener où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils ont besoin, et même pour des choses qui les concernent. Parfois, je les accompagne pour faire leurs courses, ou acheter des médicaments, ou trouver tel et tel produit, ou carrément, pourquoi pas, accomplir une omra. Normalement, moi, mon engagement, c'est une omra, et la dernière, au mois d'octobre, j'en ai fait trois. Trois, bien entendu, accompagné des pèlerins. C'est pas trois. Moi, j'ai pris ma femme et puis on est parti tout seul, tranquille. Non. J'ai pris des pèlerins et on a assuré à chaque fois l'animation, les deux A, les invocations, les explications, tout ce qui va avec, lors de l'accomplissement des différents déplacements. Déjà, le voyage.
C'est ce qu'elle m'a dit.
Attends, on est
là, c'est quand la prochaine?
le 20 décembre, inchallah, ceux qui veulent y aller le 20 décembre, c'est un peu cher quand même, parce qu'on est période haute. Il est un peu cher quand même, mais bon, vous pouvez quand même, ceux qui ont les moyens, penser que, voilà, moi j'ai que le mois de décembre où je peux y aller, et je suis prêt à mettre l'argent qu'il faut pour avoir un produit de confortable et voilà vraiment de qualité, c'est-à-dire un hôtel 5 étoiles juste en face de l'Haram. Je rappelle qu'en fin d'année, c'est assez cher. Sinon, il y en a une autre au mois de février qui, elle, a le même prix que mois d'octobre. Pareil, toujours avec le produit, avec une formule qui est excellente, toujours avec l'hôtel juste en face de l'Haram. Hôtel 5 étoiles avec petit déjeuner très copieux jusqu'à 10h30, 11h du matin. Franchement, c'est quelque chose de bien. Et on passe de moments très agréables, bien entendu, avec l'assurance d'accomplir sa ramra dans la meilleure des façons et avec un esprit, avec un climat spirituel d'une très grande intensité. Sans parler de toutes les connaissances, les acquisitions, le savoir que vous allez acquérir pendant ces 12 jours sur place.
Bien, alors pour ceux qui veulent s'inscrire, donc vous dites vous partez le 20, vous rentrez quand?
Alors le 20 décembre, 1er janvier.
D'accord, retour le 1er janvier.
Voilà, retour le 1er janvier. Et le deuxième, c'est le 20 février jusqu'au 4 mars.
D'accord.
Donc là, comme c'est un mois qui est plus court, donc le mois de février fait 28 jours seulement, donc on retourne le 4 mars.
D'accord.
On vous appelle à quel numéro ? C'est toujours 6 nuitées à Médine, 6 nuitées à Mecca. Donc 6 jours à Médine, 6 jours à Mecca. Avec un jour à Médine, un jour à Mecca. Donc c'est le top hein, de ce que peut faire un pèlerin. Et ça dure 12 jours. Vous m'appelez au 06 29 25 35 00. C'est le numéro que je donne depuis des années. C'est toujours le même. Il y a aucun problème. Voilà. 06 29 25 35 00 pour accomplir votre Omra. Une dernière une grosse dédicace, un gros bisou à mon frère Farid, un voisin qui m'a demandé de lui faire une dédicace ce matin. Farid, que je salue au passage. Et qui est un fan de Beurre FM. Il écoute souvent Beurre FM, pas seulement mon émission. Il est, voilà. Dès qu'il est dans la voiture ou à la maison, souvent, il allume.
Il est branché sur Beurre FM. Et Farid mérite sa dédicace. Voilà, allez, tiens, il mérite aussi sa dédicace. C'est Slimane qui vous appelle, Imam Abdelali, au 01 53 48 3000. Slimane, bienvenue.
Salam alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh.
Imam et Philippe. J'espère que vous allez bien. Juste, j'ai une question concernant le Farida. Mon père, Allah yarhamo, il s'est remarié et je voulais poser la question sur le capital décès. Est-ce qu'il revient entièrement à ma belle-mère ou il est divisé entre les enfants?
C'est-à-dire que votre père a contracté ce qu'on appelle un... comment on appelle ça,
hein, une assurance.
Une assurance, voilà. Assurance vie, c'est ça?
Non, même pas. C'est en Algérie. En Algérie, quand on cotise et tout, on a le capital décès qui revient. Je savais même pas que ça existait. Donc c'est un capital décès par rapport aux années où vous avez cotisé.
Mmh. Mais cet argent-là, il est donné par l'État.
Par l'État, oui.
D'accord. Donc l'État, forcément, il va faire intervenir lui, le notaire. Un notaire, qui est chargé de faire partager la farida, y compris cet argent-là que l'État veut redistribuer aux héritiers, c'est bien ça? Il s'agit des héritiers?
Même pas. C'est la caisse des retraites qui donne, mais sans avoir
fait la farida. Elle le donne à qui? Elle le donne à qui?
Non, elle donne à la belle-mère.
Donc à l'épouse, il faut dire, on parle par rapport au défunt. Donc cet argent-là, il est bien un droit légitime de l'épouse du défunt, on est bien d'accord?
Voilà.
Eh bien, c'est à elle, on n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit de revendiquer. Là, ce que vous avez droit, vous, c'est le bien, les capitaux qui appartiennent, le legs, l'héritage qui appartient au défunt. Par exemple, si le défunt, il a laissé une maison à son nom, une voiture à son nom, de l'argent sur son compte bancaire à lui, ça, c'est le legs, c'est l'héritage. Là, vous devez procéder au partage. Mais là, l'État dit que l'épouse, si le mari meurt, l'épouse a le droit à un capital décès. Ben, c'est à elle, c'est pas à vous.
Non, il y a certains qui disent que non, il faut le partager.
Non, il n'y a pas certains qui disent. C'est l'État qui décide. Ouais. C'est l'argent de l'État. Ça, c'est pas l'argent du défunt. C'est l'argent de l'État. L'État dit, voilà, il y a un règlement, une loi, bref, qui dit que si quelqu'un meurt, la femme a droit à tant, un capital décès de tant. C'est à elle. Pourquoi vous voulez le revendiquer? Vous n'avez pas le droit d'y toucher.
Non,
et vous n'avez pas le droit même de le compter dans la manière de partager, quant à la manière de partager l'héritage, puisque elle, malgré cela, elle a le droit à un huitième de l'héritage de son mari.
Exactement. Non, mais tout ça, je le connais. Il n'y a pas de souci. Moi, le problème, il n'y a pas de problème. Nous, on lui a donné.
Mais vous ne l'avez pas donné, c'est à elle. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as donné? Tu n'as rien donné. C'est pas à toi pour donner. Si tu es à toi, tu donnes. On ne peut pas donner ce qui n'est pas à toi. Tu dis, tu lui as donné. Comme si tu as dit, ou dit, tu as non. Je suis à toi, je te dis.
Non, excuse-moi.
Voilà, je suis à toi. On n'a pas eu de.
Non,
voilà.
Non, moi,
voilà.
Moi, j'ai dit, au départ, j'ai dit, attendez, le capital décès, il revient directement à la belle.
Non, non, écoute, il ne vient ni à la femme, il vient à ce que la loi dit. Si la loi dit.
La loi ne dit rien par rapport à ça, imam, subhanallah. Alors, moi, c'est ma sœur qui l'a récupéré, elle lui a donné à elle, pour vous dire.
Non, non, non. Attends. Je vais être clair en la matière. Écoute-moi bien. Ce que dit la loi, si la loi dit non, quand quelqu'un décède, il y a une somme d'argent qui est versée sur le compte du défunt, c'est-à-dire dans son compte à lui, à ce moment-là, cet argent-là, il fait partie de l'héritage. On va le partager selon les règles de l'islam.
Il est mentionné dans son compte.
Ah ben alors, donc c'est deux choses différentes. Si par contre on me dit non, c'est quelque chose que l'État donne à l'épouse, ben à ce moment-là, c'est à elle. Tu vois ce que je veux dire, Khoya? Comme ça, quand on clarifie les choses, eh bien, il n'y a pas d'ambiguïté. Si on considère que ce capital d'essai que donne l'État, eh bien, il le donne au défunt sur son compte pour qu'il soit distribué aux héritiers, à ce moment-là, c'est tous les héritiers qui doivent en profiter, selon le partage prévu dans le Coran. Si l'État dit non, on le donne à l'épouse, ben c'est à l'épouse.
Dans le Coran, on dit que normalement, cette somme, normalement, elle doit être partagée. Si il y a un enfant handicapé ou si une des filles n'est pas mariée ou divorcée et qui vit dans le foyer, elle va être, ça va être donné, ça va être partagé entre la belle-mère.
Non, non, c'est pas le Coran qui dit ça, c'est peut-être la loi algérienne, peut-être la loi prévoit dans ce qu'on appelle les lois des finances, les lois des par exemple de redistribution des fonds de pension, etc., donc tout ce qui est lié aux aides pour les handicapés, pour les personnes fragiles, pour les personnes isolées, les femmes isolées, etc. Toutes ces réglementations qui sont des rajouts par rapport à la loi religieuse, eh bien, l'islam ne les renie pas. Elle dit simplement qu'elles doivent être respectées à partir du moment où les gens se sont mis d'accord pour qu'elles ont été votées par un parlement et que, voilà, c'est, à ce moment-là, on applique la loi. C'est la loi, dit, voilà, il y a l'argent qui appartient à l'État et au moment du décès d'une personne, l'État dit voilà, la fille qui reste seule derrière son père, on va lui donner tant, un handicapé, on va lui donner tant, à la femme qui reste seule, on va lui donner tant, ou bien on va dire non, on va mettre l'argent dans un compte qui appartient au défunt et le notaire va procéder au partage selon les règles du Coran. À ce moment-là, c'est l'État qui décide puisque c'est l'argent de l'État. C'est le dram ta al-hukoum, mashi ta moula, mashi ta ar-rajul miyit, mais c'est pas au défunt.
D'accord. Par rapport à ça, Allah m'abarak.
Parce que c'est pas de l'argent qui appartient au défunt. Si l'argent appartenait au défunt, là on dirait non, on va appliquer les règles du Coran.
Alors Slimane, je vous propose de patienter un instant, on va s'interrompre le temps de faire une petite page de publicité et vous poserez votre deuxième question rapide parce qu'il y a d'autres personnes, Slimane dernière, à l'imam dans un instant. Si vous voulez interroger l'imam Abdelali, vous composez le 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et Slimane a gagné le droit de poser une deuxième question à l'imam Abdelali Mamoun. Slimane.
Super. Ben, merci.
Salam alaikum.
Salam alaikum. Juste, mon père, au moment où il est décédé, il avait deux maisons. Et avant de mourir, il avait un appartement, il l'avait légué à mon frère.
Alors, qu'est-ce que tu appelles légué ? Il l'a mis à son nom ?
Il lui a mis à son nom.
D'accord.
Mais au bout de 5 mois, mon père me dit qu'il s'est trompé, il s'est rétracté. Donc, il a repris son bien.
Il l'a remis à son nom ?
Il l'a remis à son nom.
C'est-à-dire, au niveau notarié, le bien est au nom de ton père, avant de mourir.
Exactement. D'accord. Voilà. Et maintenant qu'il est décédé, mon frère réclame le bien. Il ne veut pas faire le fareda. Il réclame le bien. Il dit qu'il lui revient de droit. et il veut le reprendre.
Et qu'est-ce qu'il a comme argument, ton frère ? Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que c'était pas mon père qui voulait réellement, que quelqu'un lui a tourné la tête.
D'accord. Étant donné que le bien était au nom de ton frère, pourquoi ton frère a accepté que devant le notaire, il remette le bien au nom de son père ? Il aurait pu refuser. Il aurait pu dire, puisque maintenant ça m'appartient, je ne suis pas obligé de le remettre au nom de mon père. Pourquoi il a accepté de le faire, ça ?
Le truc, c'est qu'en Algérie, il y a 6 mois et pour qu'il devienne à votre nom. Donc, il n'a pas atteint le délai de 6 mois. Donc, si tu veux, automatiquement, il était au nom de mon père. Donc,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le transfert réel. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui a été faite auprès du notaire. Mais comme les délais pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la transmission, c'est-à-dire le transfert effectif, il faut un délai de 6 mois, eh bien ton père s'est rétracté avant la fin du délai et donc a repris son bien, c'est ça ?
Voilà, il a quand même dit à mon frère, voilà, j'ai l'intention de reprendre le bien.
D'accord, il lui a dit, tout le monde est au courant et tout le monde le sait.
Tout le monde était au courant.
D'accord, il a le droit. Ok, il a le droit. Donc ce bien-là n'est pas à ton frère et ton frère n'est pas en droit de réclamer ce bien-là que seulement par le biais du partage de l'héritage. Et d'abord, pourquoi ton frère il aurait droit à un privilège par rapport aux autres frères et sœurs ? De quel droit ? Simplement parce que son père lui a donné. Et pourquoi ? Qu'est-ce que t'as fait toi, papa, pour que tu aies ce droit et ce cadeau que Dieu que papa pourrait t'aurait fait par rapport à nous ? Qu'est-ce que t'as fait de plus que nous ? Et même, puisqu'il s'est rétracté, c'est pas à toi. Le bien n'était pas à ton nom. Il n'a jamais été à ton nom, donc ce n'est pas à toi. Donc à partir de là, puisque le bien au moment de sa mort est au nom du père, eh bien, ce bien-là, c'est-à-dire cet appartement, doit être partagé selon les règles de l'héritage. Alors le frère peut le récupérer, l'appartement, et il fait le calcul, l'estimation de l'intégralité de l'héritage et de sa part de cet héritage, eh bien, il la déduira de sa part. Et s'il manque une partie, eh bien, il paye aux autres héritiers le reliquat pour devenir propriétaire de cet appartement. J'espère avoir été clair. C'est-à-dire, supposons que lui, sa part d'héritage, elle est de, je dis un exemple, 100 millions, par exemple, Tajzer. 100 millions Tajzer. Et que la maison, elle vaut 200 millions. Eh bien, il prend la maison qui vaut 200 millions. Il déduit 100 millions de son héritage et il rembourse 100 millions aux autres héritiers. Puisque c'est la différence entre ce qui lui est dû et l'appartement qu'il a récupéré, qui est plus que ce qu'il a droit. Donc il va rembourser, il va restituer pour qu'il puisse devenir propriétaire de l'appartement et qu'on puisse le mettre à son nom à lui. Donc il peut, quand on fait le partage, on peut procéder au partage en nature. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, voilà... toi, tu prends la voiture, moi, je prends le magasin, toi, tu prends le petit appartement qui est dans la campagne, etc. Chacun, si l'évaluation est faite et qu'on partage correctement, eh bien, tout est possible.
Inch'Allah, barakallahu fik.
Merci, Slimane, pour beaucoup. Vos questions.
À bientôt, merci beaucoup.
Merci,
Philippe,
et avec plaisir.
Marhaba avec. Prenez soin de vous. Salam alaikum.
Merci. Moi, une compte taradi. Samir est avec nous au 01 53 48 3000. Samir, bienvenue.
Oui, bonjour, merci.
Merci à vous, Samir, on vous écoute.
Voilà, bonjour Philippe, bonjour Imam.
Bonjour, salam alaikum.
Salam alaikum. J'avais une question à poser. Dans l'islam, un homme marie une femme.
Oui.
Les choses font que ça se passe mal entre eux, ils décident de divorcer. L'homme la répudie, etc., etc., etc. Ils divorcent. Uh-huh. Par le temps, les choses font qu'ils se réconcilient. Il la remarie une deuxième fois. Par la suite, après le deuxième mariage, les choses font que ça se passe très mal entre eux. Ils se redivorcent.
D'accord.
Pourquoi, pour la remarier une troisième fois, il faut qu'entre-temps, il ait fait sa vie avec une autre femme, l'homme ?
Ah non, pas pour la troisième fois, ce sera pour la... après la troisième fois, c'est pas avant la troisième fois. C'est-à-dire que quand il va se remettre avec elle la seconde fois, il lui restera encore une cartouche pour que ça soit un divorce irrévocable majeur.
Une cartouche.
C'est-à-dire, en gros, il pourra la récupérer en faisant un acte de mariage puisque c'est un divorce irrévocable mineur. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin et elle n'a pas besoin de se remarier avec un autre homme pour qu'il puisse revenir avec lui que seulement au moment de la quatrième fois. C'est-à-dire que après la troisième répudiation. C'est à la troisième répudiation, au troisième divorce, en gros, que le mari ne peut plus revenir avec sa femme que seulement si elle se remarie avec un autre homme. Ça, c'est dans le Coran. Hein.
Ah, ok, d'accord.
Ça, c'est un verset du Coran qui le dit.
C'est pas la troisième fois.
Oui, c'est à la c'est-à-dire qu'en gros, il a le droit. Il a répudié une première fois, c'est révocable.
Ouais.
Il a répudié une deuxième fois, c'est révocable. Mais s'il l'a répudié une troisième fois, ça devient irrévocable majeur. Et quand on dit majeur, ça veut dire que non seulement il est obligé de faire un acte de mariage avec elle, mais qu'il ne peut faire cet acte de mariage que seulement quand elle aura contracté un mariage avec un autre homme, qu'elle aura consommé, qu'elle se divorcera de ce deuxième homme. Ensuite, le premier homme pourra revenir vers elle pour la demander en mariage et pour faire un nouvel acte de mariage avec elle. C'est ce qu'on appelle le divorce irrévocable majeur. Talaq ba'in baynuna kubra.
D'accord. Ça veut dire que si entre-temps elle s'est pas remariée, elle ne pourra pas revenir avec le premier homme.
Ça, c'est après le troisième divorce. Hein, on est bien d'accord. Ça, quand on parle
okay,
quand ils ont divorcé trois fois. Qala ta'ala at-talaq marratan, le talaq, ce qu'on appelle raj'i, le talaq, le révocable, c'est deux fois. Hein, la répudiation. Fa'imsakum bima'roufin aw tasrihum bi'ihsan, hein, c'est pour éviter les abus des hommes qui, si au demain on ouvrait la porte au divorce et à des divorces révocables, eh bien l'homme, qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, il laisserait sa femme suspendue en répétant la formule de divorce tous les trois mois. Tous les trois mois, elle reste suspendue, trois mois encore, trois mois. Et c'est rebelote. À chaque fois, elle doit respecter un période de viduité. Et il la récupère, il la répudie, il la récupère, il la répudie, et ainsi de suite. Tous les trois mois, il s'amuse d'elle, il abuse de sa faiblesse. Et Dieu a voulu dénoncer cela en disant non, eh ben, vous êtes limité qu'à deux fois. Vous pouvez faire ça deux fois, la troisième fois, c'est irrévocable.
D'accord, ok. Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Merci Samir pour votre question.
Merci beaucoup.
Ouais, c'est là,
on accueille Jamila. Merci, au revoir Samir. Jamila, bienvenue.
Allô, bonjour.
Oui, salam alaikum. Bonjour.
Salam alaikum, cher. Moi, je voudrais vous poser une question, deux questions. Premièrement, je voudrais répondre au monsieur qui a posé pour la somme que la femme doit avoir. Eh ben, c'est le bien de la femme, hein, parce que moi, je suis déjà dedans. L'assurance maladie m'a versé pour moi. Elle m'a dit, ça, c'est pour vous. Et deuxièmement, je voudrais vous poser une question. Moi, je suis à Paris, mais mon père et ma mère, ils ont des biens, beaucoup de biens en Algérie. Et du coup, mon frère cadet, il s'est apparé...
accaparer
les terres. Il a construit pour lui un grand terrain, un poulailler, et il a construit pour ses enfants et tout ça. Et là, quand on lui a dit qu'il faut nous donner nos biens parce que nous, on est falorba et tout ça, on n'a rien, il voulait rien savoir. Il a dit non, les terres, ils n'ont pas de papier et tout ça. Donc ma sœur, elle est descendue en Algérie, elle a pris un notaire, elle a pris un expert, ils ont trouvé que les terres étaient déjà enregistrées pendant la colonisation, que mon père, il a tout fait bien et tout ça. Là, il est têtu, il veut rien nous donner, et la maison, elle est occupée par le grand frère. Il nous a dit, sa femme, elle a dit, non, je suis là, je donne rien.
Regardons, Urtil Karima, il y a ce qu'on appelle une injustice qui est très... Vous n'êtes pas le seul cas en France, hein, des milliers de personnes subissent la même chose. Alors le problème, ce qui se passe en Algérie, c'est quoi? C'est que comme il n'y a pas d'impôt sur la succession, c'est-à-dire de droit de succession...
Si, on a fait le frais d'achir.
Attendez, laissez-moi terminer. C'est-à-dire que l'État dit, voilà, faites comme vous voulez, des gens laissent traîner. Vous avez des héritages qui ne sont pas partagés des dizaines d'années après la mort du propriétaire.
Oui.
Où les terres restent comme ça en jachère sans être exploitées par personne. C'est le bien du papa et donc des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et ça peut aller très très loin cette histoire. Tout simplement
oui,
parce
nous,
que l'État...
Pas que les petits-enfants, après, ils vont se bagarrer et tout ça, on voudrait tout mettre
J'ai
en
bien
clair
compris,
pour
mais madame, je suis
rapos.
En train de vous exposer une situation générale en Algérie. Avant de vous parler de votre cas, je voulais parler de la situation en général. Et j'expliquais pourquoi ce genre de problème se produit, et vous en particulier, pourquoi vous avez ce problème. Tout simplement parce que l'État n'intervient pas. Mais si l'État, demain, eh bien, pour tout héritage, il réclame 20% ou 10% ou 30% en France, c'est très cher, l'État, il prend beaucoup. Hein. En tout cas, tout de suite, l'État exige le partage pour qu'elle puisse récupérer son bien, eh bien tu verras, vous verrez madame que les femmes, les sœurs, c'est-à-dire en l'occurrence les sœurs et les frères, eh bien pourront procéder rapidement à chacun récupérer ce qu'il aurait dû. C'est-à-dire vous, vous prendrez votre part et chacun de vos frères prendrait leur part. D'accord. Oui. Mais aujourd'hui, étant donné que l'État dit non, 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 mais c'est pas mes affaires, réglez vos affaires devant les tribunaux, eh bien c'est ce qu'il vous dit de faire. Allez devant les tribunaux et allez réclamer devant les juges en montrant les documents à l'appui, les documents du cadastre, les actes de propriété, en montrant que voilà le terrain il appartient à notre père et que il n'a pas respecté la farida et que nous l'avons mis en demeure et que nous l'avons averti, nous l'avons demandé de procéder au partage conforme aux préceptes de la loi la loi algérienne d'abord hein, puis oui, bien entendu qui est conforme à la loi coranique. Donc à partir de là, c'est aux tribunaux de régler ce genre de problème. Sauf que souvent, malheureusement, pour éviter les conflits et la rupture des liens du sang, eh bien, malheureusement, les sœurs ferment les yeux et disent « Bon, bah tant pis, je préfère garder le lien du sang avec mon frère que de récupérer un bout de terrain qui va provoquer la rupture entre des relations avec mon frère. Alors moi je veux garder les liens avec mon frère, je veux pas avoir de problème avec lui. Donc khalli à Allah. Sauf qu'il y a les enfants. Oui, il y a les enfants de cette femme. Vous, il y a vos enfants par exemple qui disent voilà, ben maman, nous aussi on veut notre part d'héritage du grand-père. Et eux, ils ont pas les mêmes sentiments avec leur oncle que la sœur vis-à-vis de son frère. Donc eux ils viennent, ils disent non, on veut notre part et puis souvent ça part dans les tribunaux. Et bien c'est la justice qui règle ce genre de litige.
Oui, mais nous on a mis un expert, il a été Ayen El Maken et tout ça, il lui a dit que vous n'avez pas le droit de construire sur une terre qui appartenait au papa, étant donné qu'il y a des héritiers derrière vous. Donc lui il est dans tous ses états. Nous on vous laisse
voilà. Et vous le reproche.
Nous, comme ils disent en Algérie, je ne sais pas d'où ils ont ramené cette phrase, on a fait bled al-kofar, parce que nous hakimim, dînna ou hakim, c'est le tawahim t'ana, hein, c'est eux le kofar, c'est pas nous, et en plus, ils disent rahl al-hajj, et tout ça, moi je lui ai dit quand même, tu rakis te shabek ta rasoul, salat alayhi wa sallam, normalement tu as qu'est-ce que l'MMA rahi t'a. Voilà. Ouais,
malheureusement. En tout cas, ils sont injustes. Hein. Là, ce genre de situation, je vous répète, il est très courant en Algérie, mais ça ne veut pas dire que c'est courant qu'on banalise et qu'on légifère, qu'on autorise. C'est condamnable, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Ce que fait votre frère, c'est tout à fait condamnable, comme le font beaucoup d'hommes de frères en Algérie.
Voilà. Jamila, si vous voulez poursuivre la conversation, vous appelez l'imam Abdelali après l'émission, rappelez votre numéro de téléphone.
Oui, appelez-moi en antenne, Inch'Allah, 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Je propose même des cours à Alfortville. Ceux qui habitent pas trop loin d'Alfortville et qui ont envie de suivre des cours le dimanche, des cours d'éducation religieuse, même de langue arabe, etc. pour les adultes, hein, hommes et femmes, vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00. C'est toujours ce numéro-là pour la Umrah du mois de février. Aussi la Umrah par délégation pour une personne décédée ou malade. Vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00.
Voilà, et dans un instant, ce sont vos petites annonces au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.